Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Lors de la précédente émission, Jean-Jacques Morizur nous a raconté son parcours de formation, son métier de chaudronnier, son travail à l'Arsenal et les luttes syndicales qu'il y a menées. Aujourd'hui, Jean-Jacques va nous raconter son évolution dans ce métier, suite notamment à un accident qui était handicapant pour travailler sur les bateaux. Et cette nouvelle tâche de gérant qualité contrat, on verra, il y a qualité, il y a contrat, il y a gérant dans cette dénomination. Puis enfin, référent amiante qui l'a conduit à anticiper de quelques mois le départ à la retraite. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, bonjour Hervé.
Donc à un moment, en 1990, tu as eu un accident et cet accident t'a obligé à t'arrêter de travailler 6 mois et t'a obligé, à l'époque c'est comme ça qu'on soignait, on t'a mis dans une coque pour te protéger le dos pendant 2 mois, donc un corps immobilisé 2 mois, tous les muscles fondent, aujourd'hui les kinés font plus ça du tout. Et donc là, forcément, quand on bosse dans des bateaux très profonds, où il faut amener des câbles, etc., il y a un vrai problème, là. Un chariot roulant s'y déplace mal, même si tu n'étais pas sur un fauteuil roulant. Bon. Bref, tu as dû changer de boulot. Et alors, quand tu es revenu, donc, comment ça s'est passé, ce retour à l'Arsenal, avec un corps amoindri, bon, qui tout va très bien aujourd'hui, merci. Mais à ce moment-là, ça n'allait pas très bien. Donc, comment ça s'est passé?
Oui, effectivement, donc, c'est un accident. Oui, j'ai eu une hernie discale, en fait. Donc, moi, je ne pouvais plus rester debout. Donc, j'étais en arrêt de travail. Donc, au début, c'était des infiltrations. Et puis, finalement, comme j'étais jeune, j'avais moins de 30 ans. Donc, il a été décidé de ne pas m'opérer. Et donc, j'ai eu diverses piqûres, kinés, et effectivement une coque pendant un moment où là, du coup, je ne pouvais plus bouger du tout. Et petit à petit, bon, ça allait mieux. Et puis surtout, j'étais en arrêt déjà depuis quelques mois. Et là, à la DCN, le bureau qui s'occupe des gens qui sont malades, quand ils voient les congés de... Des congés de maladie qui se prolongent et ils cherchent une solution pour reclasser la personne au plus vite, évidemment. Et donc, du coup, moi, ça me faisait peur puisque travailler à bord, vu l'état de mon dos, ce n'était pas possible. Et je me voyais arriver dans un bureau et du coup, ma peur...
Tout le traumatisme scolaire revenait.
Voilà, je repensais à écrire tout ça. Donc, c'est vrai que le boulot de chaudronnier, taulier, la ventilation, c'est vrai qu'on a des rapports à faire. Mais bon, c'est quand même, ça reste peu d'écriture. Ça me faisait peur d'intégrer un bureau. Donc, la personne c'est une personne à l'Arsenal qui est prévue pour ça. Et de chercher les endroits où on peut reclasser quelqu'un qui est en arrêt depuis longtemps. Donc j'ai atterri dans un bureau qui s'appelait à l'époque UGS, unité de gestion des stocks. Donc donc j'ai fait pendant 2 ans même de la gestion des stocks, c'est-à-dire qu'on avait un listing et puis suivant le matériel qui avait été sorti des magasins, il fallait le réapprévisionner avec un barème, suivant la périodicité de sortie. Enfin, voilà, il y avait des calculs à faire.
Oui, il fallait anticiper les stocks, quoi.
Ouais, suivant c'était des moyennes automatiques. Suivant le nombre de pièces qui étaient sorties dans le mois, on savait qu'il fallait reprendre 100 ou qu'il fallait en reprendre. Enfin, après, faire la moyenne, les moyennes annuelles. Enfin, voilà, il y avait un peu de calcul à faire. Donc, voilà. Donc, on était répartis par spécialité. Donc, il y avait des chaudronniers, des tôliers. Et puis moi, évidemment, comme j'étais chaudronnier, on m'a mis dans le bureau mécanique, quoi. Donc, tout va bien. Donc, ça a été encore plus dur pour moi parce que les joints spi, les roulements et...
Ah oui, non, tu veux dire, on t'a mis en mécanique, ouais, alors que tu es chaudronnier, oui, et donc tu ne connaissais pas.
Voilà, donc chacun dans...
Pourquoi on t'a mis là alors que...
Parce que c'est là qu'il manquait une personne.
Oui,
enfin,
oui,
c'est là, je te disais, ouais. Donc c'est les gens payés par le bureau des médecins là, donc il y avait une place, il y avait des gens en arrêt, il y avait une boucher un trou en fait.
Et comment t'as fait avec ce nouveau domaine où tu dois comprendre les pièces?
Au début ça a été dur, et puis mais bon, là aussi je suis tombé sur des collègues de travail très prévenants qui m'ont aidé, et là aussi j'ai retrouvé des gens qui m'ont aidé. Entre autres, un chaudronnier qui, lui aussi, avait quitté son travail à bord pour faire ce travail-là, et qui m'a bien aidé, parce que pour moi, c'était du chinois, tout ça. Enfin, il n'y avait pas encore d'ordinateur, c'était des listings, des plans à faire, et puis des commandes régulièrement.
Et quel plaisir tu as trouvé à ce travail?
Au début, pas trop. Après, bon... Bon, après, il y avait l'ambiance. Après, bon, c'est de gérer les magasins, bon, c'est un intérêt aussi. Mais bon, très vite, ça m'a ennuyé. Surtout que la gestion, les articles que vous avez achetés en janvier d'une année, en janvier l'année après, vous allez réacheter les mêmes articles. Enfin, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Enfin, voilà.
Il y a un peu d'ennui, quoi.
Oui. Et du coup, très, très vite... Je suis retourné au chantier, au culot, voir le chef de chantier, et celui qui gérait tous les tôliers, en tout cas, de l'arsenal. Et je lui ai demandé si je voulais revenir, quoi, s'il y avait une place pour moi.
Physiquement, tu en étais capable?
Eh bien, les deux premiers mois, quand je suis arrivé à l'UGS, donc j'ai eu beaucoup de mal à rester dans un bureau, rester assis. Et là, il m'avait acheté un siège pour me... pousser un petit peu aussi à venir, un siège sophistiqué là, qui se manipulait dans tous les sens, le dossier, il y avait des manettes partout, et un fauteuil qu'ils avaient payé très très cher, je ne me rappelle plus de la somme.
Oui, oui, pour les
d'ailleurs, quand je suis parti du bureau, ils étaient plusieurs à vouloir le récupérer. Ah. Donc j'ai été me présenter à l'ingénieur au culot, et puis je lui ai dit que je voulais revenir, et cet ingénieur là, qui était vachement sympa, il m'a dit que si quelqu'un voulait travailler, lui, il le prenait forcément, quoi. Si quelqu'un veut travailler. Ouais. Donc je me suis pris, et du coup, comme à la ventilation, le chef de travaux n'a pas voulu de moi.
Ah, carrément, oui.
Ouais, donc parce que il n'a pas...
Peut-être qu'il estimait que tu...
Il estimait qu'il avait déjà des personnes en situation de handicap dans son équipe, il ne voulait pas en prendre un de plus, donc il m'a oublié, en fait, même si j'avais travaillé avec lui pendant des années. Et du coup, j'ai été en aménagement, mais finalement, avec le recul, heureusement, parce que c'était l'aménagement, c'était... c'était super intéressant
pour
moi. Tu
peux décrire un peu ce que c'est, cet aménagement, hein?
Alors, l'aménagement... Donc, c'est aussi travailler à bord, mais c'est très, très diversifié. Donc, c'est pour ça qu'en aménagement, ils prennent beaucoup de chaudronniers et de tôliers, puisqu'on travaille aussi, on va travailler l'inox, l'aluminium, et l'inox pour faire les cuisines à bord. Il y a des cuisines à bord. Et l'aluminium, à l'époque, on faisait encore des meubles, on faisait des armoires, on faisait beaucoup de travaux en aluminium. Et c'est pour ça que des chaudronniers et des tôliers étaient en aménagement plus que des menuisiers, en fait. On avait très peu de menuisiers, plus des tôliers et des chaudronniers. Et donc, ce travail était super intéressant parce que, pour moi en tout cas, et diversifié. On pouvait un jour poser une moquette, le lendemain poser un lino, un jour faire une cloison. Vous pouviez être amené à modifier un bar dans le carré des OM.
OM,
et
c'est quoi?
OM, c'est militaire, ça.
Officier
OM,
de marine.
Officier de marine.
Oui,
et, ouais, sous,
ceux qui ont
ouais,
des bars.
voilà, sous-officier. Et voilà, moi, ça, c'était diversifié. Et voilà, il y avait de quoi vraiment prendre son pied. C'est beaucoup dire, on reste au boulot quand même, mais vraiment avoir des choses intéressantes à faire, quoi. Voilà.
Mais le
Moi,
corps,
les
corps
meubles en
suivait, non?
inox, ben, alors autant j'ai eu du mal les 3 premiers mois quand je suis arrivé à l'UGS et qu'il a fallu rester dans un bureau, c'était très très dur. Et j'étais KO le soir, j'étais fatigué, fatigué. Quand je suis revenu au chantier, les 3 premiers mois aussi, j'étais épuisé le soir, quoi.
Ah ouais.
C'est le
Tu t'es pas
changement.
abîmé?
Non, j'ai été doucement. Et puis, là, j'ai toujours des soucis de dos, parce qu'une hernie discale, même si on ne m'a pas opéré, ça n'a jamais été à
Réglé,
100%. Hein, j'ai
ouais.
jamais couru de marathon. Hein. Mais donc, du coup, j'ai appris à travailler avec aussi. Hein, voilà,
D'accord.
j'arrive à faire avec. En fait, je sais jusqu'à où je peux aller, jusqu'à où je peux porter.
C'est bien.
Voilà. Et donc, et assez vite, là, donc, du coup, oui, tu parlais d'organiser le magasin. Donc, du coup, il y a un gars qui est parti en retraite. Lui était magasinier. Donc, on m'a demandé si je voulais, pour une période, hein, ça avait été bien précisé au départ, c'était pour une période, le temps qu'il y ait quelqu'un d'autre, de remplacer le magasinier, quoi.
D'accord.
Donc, parce que là. Le magasinier est en charge de chaque équipe qui monte à bord, doit bah, avoir son matériel, hein, suivant ce qu'il fait. Et il lui faut des rivets, ou s'il faut des vis, ou il faut des charnières. Enfin, donc, c'est au magasinier qui est en charge de lui fournir ça, et voire de les commander, de préparer des listes d'achat pour le préparateur qui va acheter et qui va ramener ça dans le magasin. Et c'est à nous de trier, de ranger, quoi. Voilà. Et donc, comme ça me laisse beaucoup de temps, et comme tu disais, comme on en avait parlé, en plus de faire ce travail-là, j'ai réorganisé le magasin parce que je trouvais que ce n'était pas tellement
Mais
pratique. Ouais.
tu avais une marge de manœuvre
Oui, à l'époque, il y avait moins au boulot, il y avait moins de stress que maintenant. Hein. Maintenant, à l'époque, en aménagement, un militaire demandait, tiens, là, en mer, là, quand je suis en mer, j'aurais bien aimé avoir une petite tablette là, comme ça, pour poser mes affaires. Et puis, les gars, l'aménagement, lui faisait quoi. Ça ne nous coûtait pas grand-chose de le faire en plus. Et ce qui a complètement changé 15 ans après, parce que maintenant, la moindre petite vis ou la moindre petite poignée qui serait réparée faisait appel à un compte-tâche où il fallait tout de suite, devant la moindre action d'un quart d'heure, il fallait ce qu'ils
Il fallait
appellent un compte-tâche,
justifier.
il fallait justifier et savoir sur quel compte ça allait être payé, quoi. Alors qu'avant, eh ben, il y avait une enveloppe par bateau et il y avait quand même beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est le mieux, quel est le moins bien, mais en tout cas.
Bah, tu as
Pour,
comme si,
ouais.
plus ou moins la dernière fois, moi j'ai compris que du point de vue, par exemple, du marin, lui, il vaut mieux pour lui qu'il ait l'organisation qui permet à l'ouvrier de d'une part de prendre une heure si nécessaire pour faire quelque chose qui n'était pas planifié à l'avance, parce que tout ne peut pas être planifié. Et aussi, il doit préférer le fait que toi tu puisses, en tant qu'ouvrier par exemple, si tu as besoin de 3 rivets, de 2 clous, d'aller les chercher sans forcément en faire une enveloppe précise, avec,
Voilà.
etc. Et donc ça donne de la fluidité. Et peut-être une perte de contrôle au-dessus, mais bon, il y a des résultats malgré tout.
Eh bien, les directions, c'est pas comme ça qu'ils ont calculé les choses. Ils se sont dit qu'ils vont. C'est toujours dans un esprit de contrôler les gens déjà, et puis de soi-disant de gagner de l'argent,
Rationalité aussi, oui.
d'en dépenser moins en tout cas. Mais bon, humainement et puis qualitativement, je suis pas sûr qu'on soit gagnant au bout du compte.
C'est-à-dire,
Ouais.
oui, on ne compte pas tout en fait. Quand
Ouais.
on veut tout compter, finalement, il y a des choses qui sautent à la trappe,
Voilà, c'est
qui
ça.
est le plaisir de l'ouvrier, ça c'est sûr,
Ouais.
mais aussi comment sa plasticité, sa capacité à répondre à quelque chose qui n'est pas prévu par l'ingénieur avant.
Voilà, et donc ça donne encore plus de paperasse, encore plus de
Ouais, c'est
réunions et
ça. Ouais.
encore plus de.
Là, on arrive sur le management, c'est folie, le reporting qui fait que ça prend du temps.
Ouais.
On va y revenir là-dessus. Donc, tu as fait ce travail de magasinier. Du coup, tu en as profité en plus pour réorganiser, donc optimiser, d'une certaine manière, le
Et
stock.
puis moi j'ai toujours été bricoleur et dès qu'il y a quelque chose voilà, un exemple, en aménagement, on utilise énormément de colle bostik, enfin de la colle néoprène en
Ah oui,
fait.
ça c'est intéressant, allons-y, ouais.
Et donc du coup,
Alors, explique le problème d'abord, quel est le...
Le problème, c'était que je venais de faire 2 ans au magasinage, donc je connaissais un peu le problème. C'est d'acheter une palette de pots de colle d'un kilo, je ne sais pas pourquoi, c'était pas en plus grosse quantité d'ailleurs, mais d'un kilo, et puis de les mettre dans le magasin, dans le fond, et puis d'en utiliser, et puis tout n'est pas parti, on reprend une autre palette, et après la date de péremption arrive et le produit n'est plus valable, quoi. Donc du coup, moi, je trouvais ça dommage de faire du gaspillage comme ça. Donc j'ai organisé en fait les étagères de manière à faire rouler les boîtes pour que les premiers arrivés soient les premiers partis aussi, quoi.
Ah
C'est-à-dire que
oui,
ça
bah ça.
se chargeait comme un distributeur en fait. Donc j'avais fait
Oui, c'est
comme
tout simple.
j'avais le contreplaqué, j'avais toutes les machines à côté, hein. Donc j'ai fabriqué un distributeur
Ah, c'est
de
vrai.
pots de colle pour que le premier arrivé soit le premier sorti, quoi. Enfin,
Ouais, c'est
c'est tout
simple, mais il
bête,
fallait le faire et personne ne l'avait fait avant.
voilà. Et puis moi, j'avais le temps et la possibilité de le faire. J'avais une certaine liberté. Faut dire que là, c'était en 90, on avait une certaine liberté
Oui,
de pouvoir faire ça, quoi.
qui s'est
Voilà.
perdu au fur et à
Ouais.
mesure. Et après le travail, et on reviendra sur ces initiatives, peut-être, je ne sais pas si c'est le moment. À un moment, il y avait des gens qui travaillaient avec de la colle encore,
Ouais.
mais peut-être vaut mieux présenter le travail avant, je ne sais pas.
Donc dans les travaux d'aménagement, il y avait aussi l'isolation à bord. Et l'isolation à bord ne se présente pas tout à fait comme dans une maison. Ce sont des grands panneaux de laine de verre ou de roche, hein, et sur lequel il y a une toile de tissu de verre qui est collé. Donc ça, mais pour assembler chacun de ces panneaux-là, il y avait une bande pour joindre les deux panneaux pour que ce soit vraiment étanche et propre. Et il y avait des bandes de ce tissu-là qu'il fallait pré-encoller et coller pour que les panneaux soient. Et du coup, je voyais donc les gens des entreprises privées, souvent c'était confié aux gens mettaient de la colle sur ces bandes, les mettaient à sécher parce qu'il fallait le pré-encoller avant de l'envoyer à bord et de rajouter une couche de colle qui faisait réagir la première. Et là, ça collait vraiment très très dur.
Oui, c'est ça, c'est un
C'était.
bicomposant.
Voilà. Et donc, du coup, voilà, ils faisaient leur colle et puis ils étalaient ça. Alors, suivant le taux d'humidité, ça séchait plus ou moins. Après, quand ils l'enroulaient, c'était plus ou moins sec. Et quand ils déroulaient, certains rouleaux ne pouvaient plus les dérouler. Enfin, je trouvais ça un peu archaïque. Et je me disais, il y a sûrement un moyen
En plus, ils étaient exposés à des solvants.
Non, pas trop. La
Non?
colle blanche
Ah, d'accord. OK.
à mélanger avec de l'eau, là,
OK.
c'était pas bien, pas
D'accord.
nocif, mais c'est vraiment, là, vous en avez plein les mains, et c'est vraiment. Alors, ils mettaient ça, on avait des baraques 2001 à l'époque, là, ils mettaient ça entre des tuyaux qui faisaient. Ils pendaient ça, là, comme du linge, là, et c'était archaïque, vraiment, oui. Et
D'accord.
ça, on faisait toujours comme ça.
Donc toi, tu as imaginé une solution à ça,
O
enfin, en tout
oui, donc,
cas.
comme j'avais du temps au magasin, je me dis, mais il y a quand même possibilité de faire une machine à coller et enrouler. Donc, moi, je n'ai pas fait de plan ni de grosses études dessus, mais petit à petit, j'ai commencé à faire des bacs pour la colle. J'ai commencé à trouver des résistances que je demandais aux électriciens qui ne servaient plus. Donc, j'ai fait un caisson où j'ai mis plusieurs résistances dedans. Je sais que j'avais récupéré des moteurs qui n'étaient plus utilisés aussi. Je crois que c'était des petits moteurs d'essuie-glace de bateau qui ne servaient plus. Et donc, j'avais utilisé ça comme entraînement. Et puis, voilà. Donc,
Donc, tu as fabriqué cette machine qui a simplifié le boulot des gens qui faisaient ce
J'ai mis
travail.
du temps à la peaufiner. Parce qu'au chantier, faut dire qu'à ce moment-là, c'était aussi le moment du porte-avions qui était en construction.
Charles de Gaulle.
Oui, et donc il y avait énormément d'isolation à faire à bord, quoi. Et puis très vite, ils ont été en rupture de stock, donc ils ont demandé au chantier ER, auquel je faisais partie, de leur en donner, de leur en prêter déjà. Et bah, nous aussi, très vite, on a été en rupture de stock, vu les quantités. Parce qu'en fait, l'usine ne fabriquait plus que les rouleaux qui faisaient 50 mm, et il en fallait en 100, 150 et tout ça. C'était ça qui posait problème. Et donc, du coup, voilà, j'ai peaufiné cette machine, j'ai passé beaucoup de temps dessus, parce que pour la mettre au point...
Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ouais, j'imagine bien. Ouais.
Pour jouer avec les vitesses d'enroulage, de séchage, c'était un peu complexe.
Ouais. Donc, il fallait aussi un budget. Donc, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est comment est-ce possible ouais. Comment un ouvrier peut prendre l'initiative de fabriquer quelque chose qu'on ne lui a pas demandé pour répondre à un problème qui n'était pas vécu comme un problème. Et quelle est l'autonomie et la confiance que cela nécessite entre toi et ton chef d'équipe pour que ça marche, quoi.
Bah,
et même l'organisation générale.
Ouais. Au début, j'ai lancé le truc, mais très vite, après, j'ai demandé l'autorisation du chef d'équipe et après le chef de chantier. Parce que,
Le chef de chantier, lui, il n'était pas sous-traitant. Il était...
pas chef de chantier, mais le chef d'équipe, oui, était au courant. Et puis le chef de travaux aussi. Parce que très vite, ma machine, il fallait... je n'ai pas pu continuer à faire avec du matériel de récup. Comme ça, j'étais obligé d'acheter pour peaufiner parce que c'était des kilomètres et des kilomètres de ruban autocollé comme ça qui fallait pour le chantier. Donc du coup ma machine elle a tourné pendant 2 mois et c'était une période qui a pas duré très longtemps puisque après évidemment les entreprises ont refait du stock hein, parce que voilà quand mais j'aurais bien voulu voir leur machine par rapport à la mienne.
Voilà. Ouais, c'est ça qui est dommage, t'as pas pu aller plus loin ni même on peut pas parler de brevet évidemment mais malgré tout, on t'a donné l'argent et on t'a laissé le temps.
En fait, en tant qu'ouvrier d'État, on ne peut pas avoir de brevet. Et puis, un brevet, je suppose qu'une entreprise, puisqu'ils avaient déjà des bandes de 5 ans, ils avaient sûrement un moyen de faire ça. J'ai quand même eu une prime, je crois que c'est de 900 euros, je crois. J'ai eu une prime.
Ils ont réussi à trouver une...
Pour moi, c'était aussi compliqué de monter le dossier que de faire la machine. Parce qu'il fallait expliquer pourquoi et tout ça. Donc, je ne sais plus si c'est 600 ou 900 euros. Enfin bref, j'ai eu un peu d'argent, mais bon, c'était sympa, ça valorisait un peu.
Là, il a fallu créer le dispositif administratif encore plus compliqué que
la
machine pour pouvoir te payer... là, on voit le boulot que tu as repris. Et à un moment, tu es devenu après... Oui, c'est ça. C'est après gérant qualité contrat.
Ouais,
il y a trois mots. Il y a gérant, il faut gérer. Et ce que tu gères, c'est les ouvriers des entreprises sous-traitantes.
Ouais.
Donc, qui présentent une facture.
Ouais.
Et auquel la DCN présente, elle, un cahier des charges. Donc, tu dois articuler facture, cahier des charges. Et il y a le mot qualité. Donc, c'est-à-dire avec des critères. Ça, c'est un travail qui s'est appelé d'ailleurs autrefois surveillant. Comment tu t'y prends? Parce que là, ça peut être compliqué, parce qu'il peut y avoir des désaccords ou des malcompréhensions sur le cahier des charges, sur la qualité, etc. Comment ça marche?
Comme on parlait tout à l'heure des effectifs qui diminuent tout le temps de la DCN, à un moment donné, on a fait appel à de plus en plus d'entreprises, et surtout pour des petites entités comme l'aménagement, puisque c'était pas comme on voulait supprimer c'était dans l'objectif de diminuer, voire de supprimer les ouvriers d'État. Et ben c'est dans l'aménagement, l'effectif n'a fait que diminuer. Parce que quand je suis arrivé, avant que j'arrive, moi, il devait avoir, une quinzaine d'ouvriers d'aménagement. Et donc, du coup, il y avait quand j'ai commencé à être GCC, en fait, parce qu'il y a une personne qui est partie, donc je l'ai remplacé. Il n'y avait plus que 5 ou 6 ouvriers de la DCN. Donc, beaucoup de petites tâches étaient confiées au privé. Et il fallait donc quelqu'un... c'était des travaux qui étaient donc sous contrat. Donc, l'entreprise était choisie pour un contrat de 3 ans. Donc, il y avait des barèmes qui étaient déjà négociés avec les bureaux d'études. Et donc, le gérant qualité contrat était en charge. Donc... de présenter le boulot à l'entreprise au chef d'équipe en l'occurrence, et de lui montrer ce qu'il y avait à faire et qu'il fasse le travail. Alors, la fourniture, au début, c'est nous qui la fournissions. Hein, donc, j'allais aussi avec mes catalogues, quand c'était du lino, faire choisir au bord le lino qu'il voulait. Hein, quoi. Après, nous, on avait des contrats pour acheter ça avec le bureau d'achat. Et donc, ça consistait donc à leur montrer leur travail. Et puis après, donc, s'ils avaient un souci à bord, de faire aussi un peu la gestion avec les autres spécialités. Et après, de vérifier que le travail a été fait conformément à ce qui avait été entendu. Et puis de signer un bon de réception de travaux. Quoi.
Ça aura pu occasionner des conflits ou des désaccords. Et tu dis que ça s'est bien passé. Alors
non, parce qu'en fait, là, tout le monde travaille en bonne intelligence. Les entreprises savent. Là, au début que j'ai fait ça, en tout cas, j'avais les deux entreprises qui étaient en concurrence. Là, déjà, ils travaillaient super bien. Et les deux contremaîtres à qui j'avais affaire, c'est des gens intelligents, compétents. Et surtout très honnête, parce que c'est vrai. Et donc, du coup, ça a beaucoup facilité ma tâche et il y a eu très vite une relation de confiance. Et donc, du coup, quand on travaille en confiance, tout va beaucoup mieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Après, j'ai fait plusieurs années. Dans les GCC, il y a trois catégories. Et moi, je suis arrivé assez vite à la troisième catégorie, donc, qui équivaut à 9% de prime sur le salaire. Quoi. Chef d'équipe, c'est 20% de prime sur le salaire.
Toi, ouais. Tu avais 9% de plus.
J'avais 9%. Parce qu'après, quand j'ai eu... j'ai fait ça pendant quelques années, quand même. Et à la fin, quand les chefs d'équipe dont je parlais étaient partis, il y en a eu certains qui n'étaient pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc, du coup, mon expérience m'a bien servi pour savoir quand est-ce que ça allait et quand est-ce que ça allait pas, quoi.
Oui, tu connaissais bien le...
Oui, j'étais assez à l'aise.
C'est parce que tu connaissais bien le boulot, oui.
Oui.
Et tu mises sur la confiance, l'honnêteté.
Ouais. Voilà, ouais. Et donc, comme je disais, du coup, j'ai été sur Rien d'Industrie parce que les effectifs partaient. Sur Rien d'Industrie qui était avant moi est parti faire chef d'équipe à Cherbourg. Et après, l'entité a encore diminué. On a le chef de travaux. Oui, on avait toujours un chef de travaux, mais plus de chef d'équipe et plus de sur une industrie. Donc, j'étais le seul sur une industrie et je gérais aussi... je m'occupais des cinq jeunes de la DCN qui restaient. Quoi. Donc, je faisais office de chef d'équipe et GCC. Quoi.
Et comment ça se passe de devenir chef?
Par élimination, quoi.
Comment tu te positionnes? C'est pas si facile. Des fois, c'est difficile de se retrouver chef des gens avec qui on a travaillé avant.
Ouais, mais j'avais...
Pas de problème.
Déjà, j'avais les cinq jeunes avec qui je travaillais. Et, c'était super bien, compétent et bosseur. Donc, voilà. Et puis, moi, je pense que je menais aussi une certaine dynamique. Je pense que j'étais apprécié avec eux.
Mais chacun appréciait de travailler avec l'autre.
Ouais. Et puis, c'est sûr que, voilà, il y avait... Comme ils avaient aussi, il n'y avait pas toujours les boulots les plus désagréables, puisque, en fait, là, on était déjà avec des comptes tâches et tout ça. Donc, quand j'avais pour faire un meuble, il y avait 40 heures. Donc, je donnais ça, je confiais ce travail à un des ouvriers.
Qui était capable de le faire en 40 heures.
Oui, qui était capable de le faire. Bon, si ça dépassait, il y avait des raisons, des choses comme ça. Donc, j'avais cette gestion de toutes ces tâches-là aussi. Donc, heureusement que là, il y avait Internet et puis et le tableau Excel ont bien fonctionné pour gérer ça. Quoi, parce que vous avez 40 heures, donc il faut faire le travail en 40 heures. Si vous avez à bord une pièce à refaire, si vous avez 500 heures pour refaire toute une cafétéria, il faut tenir la route pour que ça soit fait en 500 heures. Quoi.
Oui, tu dis que ça s'est bien passé, mais ça aura pu... Enfin bon, sans doute que la DCN n'était pas... était exigeante juste, pas trop. Parce que, aujourd'hui, le but, c'est de faire bosser les autres le plus possible, le moins d'heures possible.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Mais il y a une faille à ça, oui. Mais là, en tout cas, toi, tu n'as pas été contraint de cette façon-là. Non,
j'ai vécu ça comme une période... de mon boulot bien. Enfin, j'étais
d'accord.
Bien. Mais après ça a changé très vite l'arsenal. Après, c'était la réparation. La réparation, il y a eu de moins en moins de bateaux. Donc après, on a travaillé en réparation sur les BPC et tout ça. Là, c'était question de contrat, tout ça, c'était beaucoup plus compliqué, quoi, beaucoup plus.
D'accord, ouais. Ça se dégrade. Et en fin de carrière, 2 ans avant ta retraite, tu te retrouves référent amiante. Donc en sachant que toi, tu y as bossé déjà quand tu étais plus jeune dans l'amiante, c'est intéressant de voir dans quoi on bossait, dans quoi aujourd'hui, comment cet amiante est traité. Et puis ce qui t'arrive, c'est-à-dire, toi, ton boulot, c'est que les gens sont en sécurité maximale. Et le boulot des gens de qui t'exige ça, eux, c'est d'aller vite et de faire le, de faire le truc. Et donc il y a un conflit objectif qui arrive forcément. Toi, tu vas être obligé d'arrêter certains travaux. Donc comment tu te retrouves là, comment ça se passe et comment tu gères cette fois-ci, enfin, cette situation difficile?
Oui, donc là, pour dire, moi, j'étais bien à l'aménagement. Donc, je vous dis, il y avait 5 ouvriers. Moi, j'étais responsable du coup de l'atelier aussi, parce que par élimination, j'aime bien dire que je suis le dernier des Mohicans des fois, parce que par
À la fin, t'es chef parce qu'il n'y a plus de chef.
voilà, j'étais chef parce qu'il n'y avait plus de chef. Et donc, du coup, d'un jour au lendemain, il y a quelqu'un qui était gérant qualité contrat comme moi. Au Gréement, Gréement Forge, qui a eu un accident de voiture, et donc on m'a demandé de le remplacer. Oh, ben, je dis non, je ne connais pas le travail, je suis compétent ici, je ne suis pas sûr de l'aide là-bas, enfin je ne connais pas. Et même si en tant qu'aménageur, j'ai travaillé dans l'amiante, hein, je travaillais en isolation aussi, mais on me dit, ben, voilà, c'est un ordre, tu vas là-bas, il faut remplacer la
Oui, tu n'avais
personne.
pas le choix.
J'ai pas eu le choix. Et bon, du coup, j'ai essayé d'appréhender ce travail là du mieux que je pouvais, hein, même si en Califouja, je travaillais, c'était beaucoup sur les sous-marins, et je connaissais pas les sous-marins, donc j'étais obligé de m'appuyer sur les gens personnels du privé qui faisaient ça. Et moi, je trouvais que c'était le monde à l'envers. Je me sentais pas beaucoup à ma place, quoi.
Ah, et tout d'un coup, t'es celui que t'as pas aimé autrefois, c'est le chef qui sait pas et qui demande à
Voilà,
vérifier les
bon,
résultats.
heureusement que je travaillais les gens du privé. Là, une fois encore, moi, j'ai jamais eu de problème avec les gens du privé. Ils étaient super compétents, et ils m'ont bien pris, enfin, ils m'ont bien aidé dans mon travail. Mais par contre, il y avait ça, c'était le camouflage. Mais l'amiante, alors, du coup, oui, l'amiante, ça a évolué entre 82 et puis là, déjà, on était en 2008, hein, quand je suis arrivé au Gréement. Faut voir comment on traitait l'amiante en 82. Déjà, très souvent, on travaillait dans l'amiante, on ne savait même pas. Quand on mettait des cloisons, des doubles cloisons, parce que à bord, tout dans les compartiments de vie, en tout cas, il y a une double cloison, on mettait à l'époque encore pour faire isolation, on mettait des pastilles d'amiante. Donc ça, moi, j'ai vécu ça en 82, quoi. Et là, on est arrivé petit à petit à traiter l'amiante de plus en plus strictement, ce qui est bien, sûrement, pour la santé ce qui est bien.
Donc il ralentit singulièrement la tâche.
Ah ouais, mais ça, c'est. Mais en fait, il y a eu des milliers de morts aussi par rapport à l'amiante, quoi.
C'est pas,
Donc,
oui, c'est pas rien, non.
certains ont trouvé que ça allait trop vite, trop loin, mais bon, après, est-ce
En tout cas,
que.
toi, ton travail, c'était de.
Ben moi, j'étais donc devenu référent amiante, et dès qu'il y avait qu'on découvrait, par exemple, sur une corvette, lors de travaux dans la machine, si on découvrait un joint en amiante, et ben on me prévenait. Donc j'étais en charge d'arrêter les travaux, déjà de prévenir l'inspecteur du travail, et de faire un contrat avec une entreprise pour désamianter, quoi. Mais
Donc
ça, c'était pas.
avec des procédures très élaborées qui changent le boulot,
Oui,
quoi.
faut savoir que suivant le lieu, ça peut entraîner 10 à 15 jours, voire plus, d'arrêt de travail pour le carénage d'un bateau. Il faut savoir que à cette époque-là, ce sont les travaux de remise en état, les visites annuelles, hein, de carénage de 3 mois ou de 4 mois, là. Et c'est de plus en plus court. C'était 6 mois avant, c'était beaucoup plus avant. Et donc, on confie ça à des jeunes ingénieurs qui, quand on leur dit qu'on va stopper les travaux 15 jours dans la machine, crient au scandale, quoi. Mais moi, je me retrouve donc pris entre ce, en tant qu'ouvrier, enfin ouvrier, même si j'étais gérant qualité, entre ouvrier. Donc là, je n'avais pas de chef d'équipe, je n'avais pas de chef de travaux au-dessus de moi. J'étais directement en direct le sous-chef de chantier et qui me disait bah, je te soutiens, Jean-Jacques, il n'y a pas de souci. Si tu as un problème, tu me dis, mais moi, je ne vais pas. Je ne vais pas aller tous les jours lui dire... Ouais. Parce qu'en fait, c'est devenu infernal, parce que vous arrivez le matin, vous avez une cinquantaine de mails, tous les ingénieurs s'écrivent ensemble, entre eux, et puis ils disent « Ouais, Jean-Jacques, pourquoi tu as été ? Tu ne peux pas faire une procédure accélérée. Comment je vais faire pour mener à la date mon carénage ?» Je dis « Ouais, mais moi, je n'y peux rien. Je suis la procédure qui a été... qui est pareille pour tout le monde, quoi. » Et
désagréable,
c'était désagréable et ça devenait très lourd. Et puis moi, enfin, même si mes chefs me disaient « je te soutiens », mais en fait, le contact direct avec les gens qui se plaignaient, c'est moi qui l'avais. Et là, du coup, moi, je n'ai jamais été... si pour les comptes et puis pour les petits rapports, ça allait de répondre à la messagerie, parce que bon, les ordinateurs, ça arrivait quand même dans tous les bureaux à ce moment-là, de répondre aux mails de gens... qui se plaignait parce que j'avais arrêté les travaux, ça me barbait, quoi. Enfin, voilà, ça devenait de plus en plus dur. Ça me prenait et j'arrivais à une situation où je me retrouvais comme à l'école avec la boule au ventre pour arriver au boulot, ouais. Comme la boule au ventre pour aller à l'école. Et j'ai dit non, moi, il faut que j'arrête ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte à ce moment-là, pour avoir été travailleur en tôlerie, en chaudronnerie, et d'avoir travaillé dans l'amiante toute ma carrière, j'avais droit à un départ anticipé pour l'amiante.
À 50 ans, c'est ça ?
À partir de 50 ans, quoi, à condition d'avoir travaillé trois ans travailler dans l'amiante donne droit à une année
supplémentaire de cotisation retraite.
Ouais, de départ avant, quoi. Enfin, pour partir avant. Donc moi, ayant travaillé plus de 15 ans
en amiante, t'as récupéré 5 ans là.
Ouais. Plus que ça, je sais même pas combien d'années, j'ai pas calculé, mais enfin bref, je pouvais partir à 50 ans.
Donc, j'avais... Donc ça, ce dernier boulot, tu as achevé, là tu as dit je lâche le flambeau.
Oui, voilà, parce qu'autant en aménagement, je me sentais bien, j'étais à l'aise, je me trouvais à ma place, quoi, voilà. Et là, je me trouvais... En plus, j'avais des responsabilités, j'avais du matériel à acheter là, pour les sous-marins, qui étaient des sommes qui dépassaient, je trouve, le rôle d'un ouvrier GCC, enfin, voilà. Donc...
On te donnait des responsabilités qui n'étaient pas en rapport avec ton grade.
Voilà.
Ce qui, du coup, te met en conflit avec des gens qui sont plus gradés que toi, aussi, de certaine manière.
Oui, qui sont plus responsables. Après, il n'y a pas trop une notion de grade.
Mais là, ça ne peut pas marcher. Tu as eu de la chance de pouvoir t'échapper par,
voilà. Et par puis, l'âge. Et du coup, moi, je savais que je ne m'ennuierais pas. Une fois cessé l'activité à l'Arsenal, je savais bien que je ne m'ennuierais pas. Hein,
Très belle transition, Jean-Jacques. On va justement aller sur la suite. Parce que ça fait partie aussi de l'émission Un bon boulot, hein, quand on s'arrête. Surtout là que c'est lié à ton activité aussi. Donc, alors, moi, je fais une introduction rapide et après, on va détailler, tu vas nous présenter des épions et la caisse à clous. Donc, rapidement dit, déjà, dès que tu as eu des enfants, donc tu as été parent d'élève et tu as même été président des parents d'élèves.
Ouais. De l'APE. Ouais.
Et là, dans le même temps, tu étais toujours super bricoleur qui connaît à la fois la tôlerie et la menuiserie. Et tu as eu l'idée, ou je ne sais pas comment elle est venue, mais de fabriquer des jeux du monde entier. Et aujourd'hui, le résultat, il y en a 120 dans ta grange, là. On va aller les voir. Et ces jeux, non seulement tu les fabriques et ils sont très sophistiqués, tu vas nous en présenter un. La règle, la pièce. Moi, j'y ai joué, c'est fabuleux. Et ces jeux, en plus, des épions, on les prête aux écoles, aux kermesses, aux...
Les loups, souvent.
Les loups. Ouais, ouais, mais enfin, tout ça, c'est bénévole. Comme toi, ça ne te rapporte rien.
Ouais, oui, oui.
Mais c'est vrai, il faut un peu d'argent. Parce qu'il y a un salarié, c'est ça, hein.
Il y a une
salariée à payer quand même.
Ouais. Ouais.
Mais bref, c'est une énorme activité. Et on va en parler. Et par ailleurs, tu es aussi à la caisse à clous. En soi, c'est un monument à Brest. Bon, j'essaie de résumer aussi. La caisse à clous, c'est des anciens de l'arsenal qui, devant le licenciement massif des ouvriers, donc des tas de gens qui se sont retrouvés en retraite, pré-retraite, vous avez organisé une asso qui à la fois voulait donner une activité à ces gens en retraite et en même temps faire vivre la solidarité vécue quand vous étiez à la DCN et aider des gens en formation et aider aussi des gens qui n'ont pas d'argent, par exemple pour réparer leur voiture. Ouais. Donc la caisse à clous, c'est un grand atelier où il y a tout ce qu'il faut pour la menuiserie, tout ce qu'il faut pour la mécanique, et tu participes à ça. On va commencer par des épions. Peut-être tu peux rapidement présenter, cette association que tu as cofondée, pourquoi tu l'as fait et ce qui s'y passe et quel est l'intérêt ?
Oui, alors d'abord, moi, c'est bon, le jeu, jouer, ça m'a toujours passionné. Et donc, du coup, donc Des Épions, on l'a fondé à plusieurs en 2001, parce que la salariée et moi, Hélène, donc on était à Peupliculture et puis donc on faisait des animations pour Peupliculture.
En quoi ?
Peupliculture, c'était une association.
Peupliculture.
Une association brestoise qui avait plusieurs branches. Hein, ils envoyaient des jeunes au Burkina Faso. Enfin, il y avait plein de multiples choses. Et donc Hélène, depuis quelque temps déjà avec Yann, il faisait donc des animations et des jeux en bois. Et donc moi, je suis arrivé là parce que ça m'intéressait, le jeu en bois, parce que j'avais, faut dire que moi, j'ai toujours été passionné par les. Enfin, j'ai toujours donné un coup de main aux kermesses des écoles publiques parce que mon père faisait ça déjà. Quand j'ai participé à tous les kermesses avec mon père. Et quand moi j'ai eu des enfants, je me suis rapproché aussi de l'association des parents d'élèves de l'école Edensal à Guipava où étaient mes enfants. Et donc, du coup, j'ai fabriqué des jeux pour la kermesse. Et chaque année différente, je m'employais à avoir des nouvelles idées, faire des nouveaux jeux. Et de fil en aiguille, là, je me suis dit, tiens, je vais me rapprocher. Il y a bien une association brestoise. Et donc, c'est là que je me suis rapproché de Peupliculture et d'Hélène. Et après, comme ça ne s'est pas trop bien passé dans cette association-là, Peupliculture, puisque l'argent n'était pas réinvesti pour l'achat des jeux, c'est ça qu'on demandait, nous.
Ils faisaient quoi avec l'argent ?
Ils le mettaient sur d'autres postes, et nous, on avait réclamé est-ce qu'on puisse au moins racheter quelques jeux, quoi. Parce que là le panel des jeux était très, très limité.
D'accord.
Et Hélène et moi, et d'autres, beaucoup des gens qui sont à Écoumène, là, aujourd'hui, et on a créé Des Épions. Voilà. Et donc, on a fabriqué des jeux. Hélène a fait un gros travail de publicité. On travaille souvent pour la mairie. Hein. Là, Hélène va souvent dans les écoles faire des bricolages, fabriquer des jeux avec. Et moi, j'ai toujours aussi fabriqué des jeux avec Des Épions. Et donc, j'ai fait des billards hollandais, des Maxi Flitzers, des hockey, tout ça. Mais j'en faisais souvent deux. Et j'en faisais un pour Des Épions et un pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai beaucoup de jeux d'adresse que j'ai gardés. Enfin, il y a les miens avec lesquels je fais des animations.
T'en as combien aujourd'hui ?
Ouais, j'ai une centaine de jeux d'adresse. Mais après, j'ai des jeux de réflexion. J'ai beaucoup de casse-têtes aussi. J'aime bien les casse-têtes.
Ah oui.
Ouais. Voilà.
D'accord.
Et donc, à chaque kermesse, oui, je me suis rapproché des parents d'élèves et j'étais président des parents d'élèves à Enansal pendant 7 ans. Donc voilà, je faisais des chats pour la kermesse.
Okay. Mais c'est un sacré boulot et il faut aussi avoir un sacré atelier.
Ouais.
Donc on va aller visiter la cave à jeux, la grange à jeux. C'est bien de nous en présenter et la façon dont tu l'as fabriqué.
D'accord.
Et après, on ira voir ton atelier qui c'est un atelier professionnel.
Non, pas tout à fait quand même.
Pas tout à fait quand même, ouais. Donc là, on est avec Jean-Jacques dans son, je ne sais pas comment appeler ça, une grange, une ancienne grange, dans laquelle il y a plein de jeux, puisqu'en tout, on a plus de 100. Et on va déjà examiner de près la fabrication d'un jeu qui est devant nous. Parce que devant nous, bon, c'est difficile à décrire, il y a des murs, il y a des planches sur les murs, contre les murs, il y a des jeux éparpillés partout, il y a ce qu'on appelle des racks, des endroits pour porter les jeux, enfin des chariots pour porter les jeux et pour les amener dans les kermesses et dans toutes les autres fêtes. Donc commençons par ce jeu-là. Alors Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous le présenter?
Oui, alors là, c'est un labyrinthe. Donc, j'aime pas dire que j'invente des jeux, mais j'aime bien, quand je vois un jeu, l'adapter déjà à ma façon de pouvoir le faire, hein, à la matière que je vais utiliser. L'idée aussi, c'est qu'il ne soit pas trop volumineux ni trop lourd, parce qu'il faut, dans une animation, quand on en voit 20, 30, 30 jeux, il y a beaucoup de manipulations et de charges à porter. Et là, du coup, ça, c'est un labyrinthe, c'est trois labyrinthes qui convergent. Donc, l'idée, ils sont exactement pareils, les trois labyrinthes. Et donc, on peut jouer à trois, et donc, au bout du labyrinthe, il y a un trou, et ça tombe dans une table.
C'est une
Et
boule, tu fais circuler une boule
voilà, c'est
sur ce
ça.
labyrinthe.
Sur le labyrinthe. Et donc, du coup, il y a une notion déjà de partie terminée, parce que des fois, les labyrinthes, bon, c'est un peu difficile. Et donc, du coup, là, on peut jouer et peut avoir un concours entre trois personnes. On démarre en même temps. Les trois labyrinthes sont parfaitement identiques. Et le premier qui a sorti sa boule du labyrinthe, et quand la boule est tombée dans la table trépied, ben, on a gagné.
On peut lui
Voilà.
donner une idée de la taille déjà, parce que moi, il fait presque 1,70 m de long.
Ouais, mais 70 sur, mettons, 55 de large. Et donc, bah, tout est fait. Là, c'est fait avec du bois de récup. Ça,
Et le bois de récupérer où alors?
Là, je récupère. Ça, ce bois-là, c'est du contreplaqué, là, de bouleau de 21 mm. Ça,
Ah, ça vient de l'Arsenal?
non,
Ah non.
non, non, ça vient d'une entreprise. Je ne sais pas si on peut les citer, Tepocolin.
Oui, il y a une entreprise qui accepte de te donner
Voilà,
du.
c'était tout en chute, hein, parce que en fait, ils ont fait des caissons acoustiques pour les capucins. Donc, c'était des caissons monstrueux. Hein. Et du coup, ben, il y avait, par rapport aux feuilles de contreplaqué, il y avait toujours les mêmes chutes, toujours les mêmes bandes qui partaient.
D'accord.
Et puis, moi, j'ai récupéré pas mal de ça. J'ai fait beaucoup de choses
Et
avec ces jeux.
comment ils avaient été mis en contact?
Ma voisine travaillait chez eux.
Ah
Ouais,
oui, là c'est
ouais.
simple. Ok, d'accord.
Voilà. Et donc, du coup, et le contreplaqué, je récupère ça dans une entreprise qui s'appelle TFA et qui fait l'aménagement intérieur de camions. Donc, ils ont beaucoup de chutes de fine épaisseur. Hein, moi. Donc, du coup, voilà, ça, là, déjà, ce jeu-là, c'est déjà une grande chute. Hein, j'en ai pas beaucoup des grandes chutes comme ça, mais je fais beaucoup. Tous les valises qui permettent de ranger les pions de chaque jeu. Donc, j'essaye de faire une petite boîte par jeu pour ranger
Ouais.
les pions, quoi. Voilà. Ils
Genre.
sont. Tout est. Voilà, c'est ça. Ça représente ça.
C'est les caisses en plastique là?
Ouais, caisse en plastique, et chacun a une boîte dans laquelle sera les boules, les pions ou les billes de chaque jeu, quoi.
Je vois qu'il y a de la mousse aussi, peut-être pour caler ou.
Ouais, voilà. Après, je suis très bon en Tetris pour arriver à mettre 30 jeux dans mon petit fourgon.
Oui, t'as un fourgon qui va avec, ouais.
Voilà, c'est ça, un skido. Ouais.
Alors là, je vois une espèce de billard à trous, c'est ça,
Voilà,
avec
donc
des points.
ça c'est une option d'un billard japonais, parce que j'aimais pas le billard japonais, puisqu'en fait les boules redescendent tout le temps. Alors moi, je me suis dit, bah, je vais faire un billard japonais, mais avec une trappe en dessous, comme ça l'enfant, quand il aura l'enfant ou l'adulte, hein, le joueur en fait, aura lancé ses 10 boules, et ben, quand ils n'iront pas dans la cible en fait. Eh ben, ça va tomber dans une trappe, et à bout d'un moment, les 10 boules seront soit dans la cible, soit dans la trappe, et on pourra passer à un autre joueur. Alors que le billard japonais d'origine, eh ben, les boules ne faisaient que redescendre, et puis ben, on passait jamais à un autre joueur. Donc ça,
Donc tu penses
c'était.
au jeu aussi.
Ouais,
Tu
je
joues
pas.
à tous tes jeux? Tu as joué à tous tes
Oui,
jeux?
je suis très joueur, et mes enfants sont très joueurs, et donc
D'accord.
on joue beaucoup ensemble. Voilà.
Et
Ouais.
juste là en bas, à gauche de tes pieds, je vois des grenouilles, trois grenouilles
Alors
qui
la
font.
grenouille, la première, moi je l'avais faite dans mon petit atelier.
C'est toi
Enfin,
qui l'as faite?
une d'entre elles, c'est moi qui l'ai
Laquelle?
faite, la verte.
Comment tu as fait la forme? Comment tu
Alors
l'as
là, c'est
formée?
avec un tuyau qui est passé à la presse, écrasé. Après, ce sont des pièces qui ont été soudées, forgées.
T'as les outils pour faire ça?
Ouais, marteau, et puis là, il a fallu un petit coup de chalumeau quand même. Et donc, les yeux de la grenouille et puis les crêtes dessus, là, ce sont des cordons de soudure qui ont été rajoutés, meulés, rajoutés. Voilà.
T'as fait ça ici?
Non, j'avais là où j'habitais avant, j'habitais à La Valotte avant,
Oui,
et là,
enfin, t'as fait ça chez
oh,
toi en tout
oui, j'ai
cas.
fait chez moi. Et
Donc.
les deux autres ont été faites à la caisse à clous. Ouais. C'est par
D'accord.
le forgeron. Il
Ah,
a
c'est lui
fait.
qui les a faites
Ouais.
sur des plans à toi, quoi, parce qu'elles
Ben, il a,
ressemblent
j'avais.
vraiment à des grenouilles.
Ouais, et donc du coup, c'est fait avec le bouchon d'une bouteille de gaz.
Ici, on est dans ton sous-sol, Jean-Jacques, le sous-sol de la maison.
Ouais.
Donc en surface, il y a combien? Il y a
Ça fait 8 mètres sur 12. 8 mètres sur 12.
8 mètres sur 12. Et il y a des machines un peu partout. On peut faire le tour parce que
Si tu veux.
c'est avec ces machines que tu fabriques les jeux pour des épions. Voire tu aides des voisins à réparer je ne sais quoi. Voilà.
Oui.
Allons-y. Allons-y.
Oui, ben donc pour bricoler, petit à petit, ben on commence avec une scie sauteuse, une perceuse, et puis après, petit à petit, ben on se dit que avec une rabot d'ego, ça serait pas mal aussi. Avec une scie à ruban, ben ça serait encore mieux. Avec un combiné à bois, ça serait encore mieux. Et après, avec les établis qui vont. Il faut savoir que quand je suis arrivé dans mon ancienne maison, la première chose que je fais, au lieu de déménager, une fois que les meubles et le lit est monté, la première chose que je fais, c'est d'aménager l'atelier. Et la première chose que je fais, c'est de faire un établi, déjà, pour avoir.
Quand tu arrives dans une nouvelle maison,
Ah ouais, c'est la première chose, au grand dam de mon épouse.
ta
Donc,
dame.
c'est de faire un établi, d'avoir un étau, et puis au moins, si j'ai la moindre bricole que j'ai à faire, j'ai de quoi faire, quoi. Voilà.
D'accord.
Donc,
Alors commençons peut-être par, je sais pas, par le début. Enfin, vas-y.
ouais, alors du coup, bon, comme je te disais, scie sauteuse, perceuse, on a. Donc, du coup, pour mes 40 ans, ma femme m'a acheté un combiné, donc qui fait scie, rabot, dégot. Mais pas.
Dégo, c'est
Dégauchir avant une
dégauchisseuse.
ouais, dégauchisseuse avant de raboter, enfin pour mettre une planche plane, on la dégauchit d'abord avant de la raboter, quoi, parce que pour la enlever le gauche, dégauchir c'est enlever le gauche en fait,
D'accord.
pour la rendre bien plane d'un côté, et après on la passe au rabot pour avoir l'épaisseur qu'on désire avoir, quoi. Voilà.
Pourquoi tu as besoin de dégauchir? Tu achètes
Parce
des.
que la planche, elle peut avoir du gauche, elle peut s'être déformée. Enfin, voilà, si elle est propre de sillage,
Oui.
elle ne sera pas forcément plane, quoi. Voilà.
Donc c'est une espèce de table, c'est ça,
Oui,
avec des
c'est un
réglages.
combiné. Bon, celui-là, c'est un combiné qui vaut pas très cher. À la caisse à clous, on a du matériel beaucoup plus sophistiqué. Mais bon, après, j'arrive à faire ce que j'ai besoin ici. C'est sûr que. Pour un bricoleur, avoir plus d'outillage, on en veut toujours plus, plus, plus. Voilà. Mais bon, ça a un coût, l'outillage, donc il faut faire avec.
C'est vrai, donc tu
Donc,
t'en sers. Oui, ce serait une raison, par exemple, aussi de faire de l'argent avec les jeux des épions
ouais, mais
pour payer les outils.
bon, je serai jamais riche avec ça, avec les jeux,
Non,
parce que non,
ni représentant de commerce.
non plus, non, c'est pas mon truc. Voilà, donc j'ai aménagé l'atelier. Bon, il y a beaucoup de rangements.
Sur la
Bon.
gauche, là, il y a. C'est un établi, c'est ça?
Ouais, donc
Réglable, tu me l'as montré l'autre jour. Hein.
voilà. Alors donc mon atelier est tout en longueur, il fait 12 mètres, et donc c'est divisé en deux, ça fait que 4 mètres de large. Et donc du coup, quand je passe à une opération plus qu'une autre, et ben comme c'est pas large, et ben j'aime bien déplacer mes tables en fait. Donc du coup,
Ah oui.
l'idée est venue de récupérer des lits d'hôpitaux. De les démonter en gardant juste le châssis et les roues, et en faisant donc une table dessus, et une table, enfin c'est
Donc
pas,
tu as une table sur roue, mais c'est
voilà,
plus que ça, tu as une table pour certaines d'entre elles
oui,
qui descendent et qui montent
donc bah,
d'une
comme
façon.
j'ai gardé le système qui monte et qui descend pour le lit d'hôpital, parce que c'est intéressant de pouvoir travailler suivant sur quoi on travaille. On est toujours à la bonne hauteur. Si on pense une pièce qui fait 20 cm de haut, on permet de descendre le lit, et puis on est à la bonne portée sans se
Faire
casser les
mal.
poignets ou les épaules, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça permet aussi, la table qui est plutôt prévue avec telle machine, de la mettre au plus près de la porte, et puis et voilà, et donc tous mes outils sont sur roulette, et ça permet de les déplacer en fait. Voilà.
Et tu as eu cette table gratuitement en plus.
Oui, là m'étais rapproché d'une association là. J'avais fait des jeux pour une personne qui faisait des jeux pour des personnes handicapées, et puis donc il y avait possibilité de récupérer des lits, donc il m'en avait trouvé. Voilà. Et je sais que maintenant il est possible d'en acheter pour 70 ou 80 euros. Des fois, ils les jettent. Donc, voilà.
Peut-être pas celles qui montent et descendent.
Si. Ah, maintenant, d'accord. Ils sont tous comme ça. Ouais, ils sont tous comme... Il n'y a plus que des lits comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, de l'autre côté, j'ai aussi...
Allons-y.
Ouais.
Oula.
Donc, là, j'ai un tour à bois avec tous les ciseaux à bois, enfin tous les gouges qui vont bien. Donc, au début, quand je faisais des jeux et je voulais faire des boules en bois, et donc du coup, j'ai appris petit à petit à faire des boules. J'avais demandé à mon chef à l'Arsenal de me payer un stage de tourneur, il n'a jamais voulu. Voilà.
Ah, il n'a jamais voulu.
Non, il n'a jamais voulu. Voilà. Il dit qu'il avait besoin de moi, il ne voulait pas me lâcher pour...
Il ne voulait pas le laisser partir en formation.
Donc du coup, les quilles, parce que j'ai fait... pendant un moment, je faisais beaucoup de jeux bretons. J'avais acheté un livret à la Falsa... je ne sais plus comment ça s'appelle. La Fédération de Bretonne.
Oui, oui.
Et du coup, j'ai fait tous les jeux de quilles, les quilles de Muel, les quilles de Saint-Germain, les quilles de Plogastel, voilà.
Et pour ça, il fallait un tour, non ?
Ouais, donc j'ai fait tout autour, les boules, j'ai fait aussi. Voilà.
Mais... Le tour, c'est quelque chose qui est c'est une pièce métallique qui tourne autour de la pièce de bois.
Voilà,
qui...
on appelle ça, donc on fait tourner entre pointes. Entre pointes, donc ça permet de travailler surtout la longueur de la pièce de bois. Ou après, on peut travailler, on peut mettre donc ce qu'on appelle un mandrin. Ici, j'ai un mandrin Cadmore. Ça permet de prendre la pièce d'un seul côté. En fait, ça permet de faire des assiettes ou des bols ou des choses comme ça. Enfin, moi je fais pas trop de choses comme ça. Moi, c'est plutôt des choses pratiques, des boules. Enfin, c'est plutôt des accessoires de mes jeux que je fais avec. Voilà.
Là, c'est un...
Après, donc, j'ai trois perceuses à colonne parce qu'en fait...
Pourquoi en avoir trois ?
Parce que c'est comme d'avoir... Ma femme me demande souvent aussi pourquoi tu as trois perceuses à pile. Ben, en fait, quand vous travaillez... je fais très peu de séries, mais quand vous avez besoin de faire de la série, ça vous permet de faire un avant-trou sur une perceuse à colonne, de passer la pièce sur l'autre...
Oui, c'est l'industrie, là.
Ouais, non, mais bon, c'est surtout la façon de travailler qui est plus efficace, quoi. Pour,
d'accord.
Voilà, donc du coup, c'est pareil. Bon, la scie à ruban, j'ai deux scies à ruban. Ce n'est pas les mêmes lames ni les mêmes vitesses.
La scie à ruban, c'est quelque chose qui fait 1,80 m de haut, là, ou même 1,60 m.
Oui, c'est la plus grande, oui. Elle fait 1 mètre. La lame fait 2,4 m, je crois. Donc d'accord. Ça permet de vraiment de déligner.
Déligner, ça veut dire ?
Déligner, comment je vais expliquer ça ? Ouais, déligner, c'est couper un chevron en deux, par exemple, vous pouvez déligner.
Oui, d'accord.
Quoi.
Ouais. Ok. Voilà. Il y a un énorme étau là-bas aussi.
Ouais, ça c'est des étaux. Des fois, ils ont vendu des lots à l'Arsenal, vendus au domaine.
Et possibilité d'acheter. Ça vient de l'Arsenal ?
Je pense que celui-là, il vient de l'Arsenal. Ouais. Je l'ai récupéré. Possibilité d'acheter des étaux, d'acheter un lot au domaine. Donc après, vous mettez aux enchères, comme on achète une voiture aux enchères en fait.
Mais là, tu ne l'as pas acheté à l'Arsenal, tu l'as acheté aux enchères. Enfin, tu l'as acheté,
je l'ai acheté aux enchères, au domaine. Ouais.
Tu ne pouvais pas passer directement de l'Arsenal aux ouvriers, non ?
Non, il n'y a pas le droit de récupérer.
Ouais. C'est bien ce que je me disais.
Ouais.
Ça, c'est quoi ?
Ça, ce sont des tourées à poncer. Donc, j'en ai deux.
Des
poncer. On appelle ça des ponceuses sur table. Ça, c'est un outil qui est super... super intéressant pour poncer les petites pièces. Donc, voilà, on change les disques suivant ce qu'on fait. Et il y a la ponceuse orbitale qu'on a en portatif, et ça les tourées comme ça à poncer, là c'est pas très vieux, ça fait qu'une dizaine d'années qu'il y a ça, et donc là j'en ai même deux, j'en ai un qui est beaucoup plus grand pour vraiment poncer les grosses pièces, quoi. Voilà.
D'accord.
Mais j'essaye toujours de d'acheter du matériel. Enfin, j'ai toujours.
C'est
le bricoleur. Il est toujours dès qu'il voit un nouvel outil.
C'est presque une maladie là, oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça, de s'équiper. Bon.
Ouais, parce qu'au mur, il y a des tas d'instruments, des pinces de toutes sortes,
voilà.
des tournevis de toutes sortes. Après, je vois là-bas une étagère avec, il y a marqué 5,70, 5,60, 5,50.
J'aime bien avoir un peu tous les points de vis, en fait. Parce que,
Des vis,
oui. Ouais, des vis, des pointes. Et du coup, j'aime bien... Ça, c'est mes restes de magasinier, ça, de classer et de trouver tout de suite le bon point de... Facilement le bon point de vis, quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aussi d'outillage dans des mallettes, parce que comme je vais des fois bricoler chez mes enfants ou quand je vais à la caisse à clous, j'envoie beaucoup de mes outils. Donc,
ils ont besoin de tes outils à la caisse à clous, hein.
Parce que la caisse à clous, petit à petit, on achète, mais on n'a pas beaucoup de budget. À chaque fois qu'on a un peu d'argent, on essaie de s'équiper, même si on a récupéré beaucoup dans les collèges et lycées l'outillage de la caisse à clous, mais on pourra en reparler si tu veux. Une autre fois, mais il faut savoir que, par exemple, certains collèges avaient des ouvriers d'entretien et qui avaient tout le matériel pour fabriquer des petits meubles.
Et maintenant,
ils n'ont plus et ils préfèrent acheter... Enfin, c'est plus facile d'acheter un meuble chez Ikea. Et ils n'ont pas non plus forcément les connaissances en menuiserie ou en tôlerie pour faire. Donc, toutes les machines qu'ils avaient dans leur atelier... ça leur prenait de la place pour rien. Et donc, du coup, ils les ont cédés à la caisse à clous.
D'accord.
On a eu beaucoup d'outillage à la caisse à clous.
On fera un numéro spécial sur la caisse à clous en septembre, octobre. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Jacques, de nous avoir accueillis chez toi.